Bonjour, bonjour. Donc bonjour, bonjour, bonjour.
1, 2, 1, 2, 3.
Il y a de la mousse qui a enlevé.
Oh.
3, 2, 1, c'est parti.
Je ne suis pas un intrus, juste un imprévu.
Singulier au pluriel.
FPP.
Sur FPP 106.3 FM.
Et merde. Voilà, le merde, tu vas peut-être pouvoir le couper, hein. Bon, tu pourras le mettre comme jingle.
Les nuits de Mélie vont tomber. Les nuits de Mélie vont tomber. Quand les enfants de Maria vont arriver. Les nuits de Mélie vont tomber. La mer de ce Outa va se calmer. La mer de ce Outa va se calmer. Quand les enfants de Maria vont arriver. La mer de ce Outa va se calmer.
Bonjour, comme tous les mercredis, comme tous les mardis, comme tous les quatrièmes mardis de mois, de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net partout dans le monde. Et cette émission sera bientôt téléchargeable sur l'audioblog, sur les archives de l'émission Singulier au pluriel sur arteradio.net, arteradio.com, et ça, il suffit de chercher Singulier au pluriel dans votre moteur de recherche favori. Vous le mettez en un seul mot avec un S à singulier parce que singulier est au pluriel, mais sans S à pluriel parce que pluriel est au singulier. Enfin, c'est singulier au pluriel quand même. Et voilà, donc vous pourrez comme ça réécouter, télécharger gratuitement cette émission. Alors aujourd'hui, pour la troisième... C'est le troisième épisode de Ceuta 12 prisons, puisqu'on avait fait le premier épisode il y a, ça devait être au mois de septembre, il me semble. Hein.
Ouais, très possible.
C'était donc le dernier mardi de septembre avec Jonathan qui nous présentait ce film qui a pas mal avancé depuis. Enfin, le film est resté le même.
Qui a une belle petite vie et qui a eu le mérite d'être présenté ça et là dans des festivals et de donner lieu à plein de projections débat. Ce dont on est très fier.
Voilà, donc film qui fonctionne bien. Et au moment de la première projection débat, donc ce qui n'était pas vraiment, pas franchement prévu dans ce film, au moment de la première projection, il y avait un spectateur pas ordinaire qui était Guy que l'on voit. Enfin, on pourrait dire que c'est quasiment un des héros. Hein.
Oh, c'est plus que quasiment, c'est tout à fait un des héros. Parce que donc, pour resituer, pour résumer à ceux qui ont loupé les éditions précédentes, Ceuta 12 prisons, film documentaire d'1h30, qui retrace le quotidien de 5 migrants dans l'enclave de Ceuta, donc petite enclave européenne au nord du Maroc, cernée par l'un des derniers et plus grands murs d'Europe. Et le film suit le quotidien de 5 personnages, dont Guy. Et il se trouve qu'en passant entre les mailles du filet administratif européen, on a eu la chance d'avoir Guy avec nous pour des projections débat et pour les multiples épisodes radiophoniques que nous faisons ici.
Voilà, donc bonjour Guy.
Bonjour.
Et bonjour Jonathan, on ne s'est pas dit bonjour tout de suite, mais...
Oui, un bonjour tardif.
Voilà, et donc la semaine dernière, le mois dernier, donc, tu nous racontais ton voyage parce que c'est pas, quand on reste coincé à Ceuta, c'est en général qu'on est parti d'un endroit pour arriver à Ceuta, ou on reste coincé à Ceuta pendant un certain temps, mais l'idée n'est pas de rester à Ceuta. Donc tu nous avais raconté ton voyage depuis le Gabon jusqu'à cette petite enclave espagnole au Maroc. Hein, c'est en face de Gibraltar, mais côté sud.
Oui. Côté continent africain.
Voilà, côté continent africain. Et donc ça, ça avait été... Tu peux peut-être nous rafraîchir un petit peu les idées sur ce périple avant de se concentrer un petit peu sur comment les façons se passent à Ceuta, comment les choses se passent à Ceuta, dans ce centre de rétention en plus, ce centre de rétention qui peut se payer le luxe d'être ouvert.
Si je me rappelle bien, la dernière fois, je m'étais arrêté au niveau de...
La forêt marocaine.
Non, non. Je crois que j'étais en train de quitter l'Algérie pour aller au Maroc.
Oujda, okay. On avait passé Oujda en fait.
On avait passé Oujda, d'accord. Après Oujda, c'était, il fallait monter du côté de Rabat qui n'était pas facile.
Cela dit, peut-être on peut résumer très brièvement. Avant, en fait, tu as fait Gabon, Cameroun, oui. Nigeria, Niger. Ouais. La terrible, la traversée du désert, les passeurs. Mm-hmm. Arrivé sud de l'Algérie, Tamanrasset.
Ouais, Tamanrasset. Après Tamanrasset, Oran. Après Oran, je me suis retrouvé à Magnéa. Magnéa, c'était... Bon, il fallait traverser parce que Magnéa, c'est un peu comme la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Donc, il faut que tu traverses et ce n'est pas possible. Et si jamais les gardes frontaliers te prennent, ils vont te renvoyer. Les Marocains te renverront du côté de l'Algérie et l'Algérie fera pareil. Donc, en fait, cette nuit, on a marché pendant, je ne sais pas, on a fait pratiquement. Je ne sais plus, on était quitté, je crois, il devait être un truc comme 3 heures du matin. Question d'arriver au Maroc un peu en journée. Mais par malchance, nous sommes tombés sur les gardes de l'Algérie qui nous ont pris et nous ont rapatriés du côté du Maroc. Donc ça nous a avantagés. On a continué la marche toute la nuit jusqu'à 16 heures du lendemain. Et où on arrive à Oujda. Après Oujda, il fallait se reposer et puis continuer. Le groupe avec lequel j'étais, eux, ils pouvaient, parce qu'ils étaient encore en pleine forme. Moi, j'avais mal au pied parce que je m'étais, en fuyant la police à Tamanrasset, je m'étais entorsé le pied. Donc, il fallait que je me repose un peu, question de voir comment ça se passe pour pouvoir continuer. Et bon, ce qui fut fait, après, je me suis reposé et puis j'ai continué sur Rabat. Rabat, déjà quitté de Oujda pour Rabat, c'est pas en train ou quoi que ce soit, c'est à pied. C'est voire 2 à 3 jours de marche. Parfois plus, pour ceux qui marchent lentement. Mais nous, on avait
réussi... C'est loin, on rappelle qu'Oujda, c'est à la frontière algérienne, c'est tout à l'est.
Voilà, c'est très très loin pour arriver à Rabat. Et finalement, nous sommes arrivés à Rabat, après je ne sais plus combien de jours de marche. Et c'était militaire, en fait. C'était le règne militaire, parce que si tu traînes, on te laisse derrière. Et puis tu ne connais pas la route, tu ne connais pas le devant, tu ne connais pas le derrière. Donc tu es obligé de suivre celui qui connaît la route, qui était un peu comme le guide. Donc ça se passait comme ça, c'était amer, mais tu n'avais pas le choix. Et puis arrivé à Rabat, j'ai fait comme tout le monde. J'allais chercher du travail tout au black pour pouvoir avoir un peu d'argent et tout.
Tu raconterais ce que c'est qu'un shogo, du coup, pour...
un shogo, en fait, c'est quand tu arrives à Rabat, c'est... Quand tu arrives déjà en plein Rabat, tu ne verras pas de black. Mais quand tu vas arriver à Takdoum, qui est un quartier très reconnu, c'est un peu comme si tu arrivais, je ne sais pas moi...
En banlieue,
c'est une banlieue. Et puis arriver là-bas, juste à l'entrée, tu vas voir, c'est un peu comme une barrière où tu vas voir les blacks qui sont assis. Et là, ce qu'ils font, ils attendent d'avoir un shogo. Un shogo, pour nous, c'est un travail au black. Donc, et c'était très facile de... c'était très facile pour moi de m'adresser à eux, de chercher à savoir comment je devais faire et pour avoir un toit sur lequel dormir et savoir comment ça se passe. Mais pour ça, il fallait avoir l'argent. Et ce qui n'était pas évident pour certains qui n'en avaient pas et pour certains qui en avaient.
Mais toi, tu faisais quoi comme genre de travail ?
On faisait plein de trucs. On faisait. Moi, j'ai fait dans la maçonnerie, j'ai fait dans. J'ai été boucher même. J'ai fait dans. J'ai été même sculpteur. J'ai fait un peu de la comment je vais dire, c'est la terre battue. Et j'ai fait aussi dans le paysagiste. Hein. J'ai fait. Il y avait plein de trucs. Il y a plein de trucs. Parfois, il y en avait qui vendaient même des sucreries, qui vendaient des beignets. T'as pas un travail fixe. Tu fais ce que tu trouves en fait. Et puis après ça, j'ai réussi à économiser un peu d'argent parce qu'il fallait payer pour pouvoir traverser du côté de l'Espagne. Étant au Maroc, tu sais seulement que tu vas traverser un jour pour arriver en Espagne, mais tu n'es jamais allé. Bon, après, quand tu tombes sur les gars qui vont souvent essayer d'entrer, tu te rends compte qu'en brousse du Maroc, c'est pratiquement toute une cité. Parce qu'en fait, les gars, ils vivent, ils se construisent des petites cabanes. Et puis, rien que le fait de voir, de monter sur des grandes collines et voir les lumières de ce Utah juste en face, c'était comme un espoir. Tu vois, tu rêves. Un jour, te retrouver de l'autre côté, mais tu acceptes ce que tu vis actuellement parce que tu t'attendais peut-être pas à ça. Par exemple, comme moi, je ne pouvais pas dire un jour que je devais dormir, mais bon, tu n'as pas le choix, tu fais comme tu trouves. Et puis, ayant économisé un peu d'argent, j'ai fait comme tout le monde, j'ai participé. Il fallait payer, ça variait en fait. Il y avait des business, tu pouvais payer entre 1200 voire 3000 par la voiture, pour ceux qui avaient l'argent.
Dirham donc. Hein.
Ouais, en dirham.
Ah oui, en dirham.
Non, c'est pas en dirham on paye, on paye en euros. On paye pas en dirham, on paye en euros. Quand tu payes 800 euros ou tu payes 1200 euros. Ça, c'est en voiture. Si tu veux payer les Zodiac et tout, soit tu payes 1200 euros. En voiture, c'est 3000 euros, etc. Mais si tu veux payer, faire comme tous les autres, c'est-à-dire tu économises, vous économisez jusqu'à ce que ça donne un truc comme pratiquement 500 euros. 500 euros qui font 5000 dirhams. Alors, ça te permet d'acheter un Zodiac de 300 et poussière de kilos que vous mettez parce que vous mettez tous ceux qui ont cotisé. Donc, imagine pour avoir 500 euros, si tu tiens un revenu de 70 dirhams par jour et même encore, il faut dire que tu manges, tu t'habilles et tout et tu payes où tu dors. Parfois, c'était pas évident, mais on s'entraidait entre nous. On était très solidaires, très solidaires et puis on essayait de faire ce qu'on avait. Mais moi, j'avais eu la chance de tomber en tant que tomber sur un monsieur qui m'a permis d'avoir un travail comme boucher. Et c'est ce travail qui m'a permis de pouvoir continuer l'aventure. Parce que honnêtement, je serais peut-être pas là aujourd'hui, peut-être pas maintenant, mais je serais quand même là, mais peut-être pas maintenant. C'est ce travail qui m'a permis d'économiser parce que j'étais logé. Et à cet instant, j'étais, on va dire, j'étais pratiquement entre musulman chrétien, parce qu'il fallait montrer le bon exemple, que tu sois chrétien ou musulman, il fallait que tu sois quand même quelqu'un de très très réfléchi et de calme. Et ça a permis aux gens de faire connaissance et m'accepter comme j'étais. Et puis voilà, j'ai fait pratiquement 7 mois avec eux de travail et ça m'a permis d'économiser et de compléter ce que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai pu continuer en payant 800 euros, prendre un Zodiac où on était 9.
Quand tu dis Zodiac, donc on va préciser, en fait, c'est un grand bateau gonflable, qu'on voit sur les plages pour les enfants ou pour les piscines,
oui.
Qui n'a pas de moteur, hein, c'est juste un bateau.
Non, mais il y en a qui ont des moteurs. Ça, c'est quand tu payes déjà, quand tu payes une somme d'argent comme 800 euros, tu ne vas pas...
Voilà, le tien en l'occurrence.
Voilà, donc, mais même quand il y a le moteur, il faut faire gaffe, parce que le moteur, si on te trouve avec, tu peux faire un bon bout de temps là-bas. En Espagne, on va te mettre en taule, c'est pas permis. Tu n'as pas le droit. Si tu es immigré, tu entres comme immigré. Alors, y a des guides qui ne sont pas parfois bien, parce que ce qui se passe, c'est que les business qui se passent entre Marocains, et parfois quand ils vont vous lancer, ils vont vous dire bah, écoutez, vous avez vos gilets, et puis après, vous allez être payé. Parfois, il y en a même qui payent et qui ne voyagent jamais. Hein. Ça dépend de la personne qui va vous lancer. Si c'est quelqu'un d'honnête, il va vous lancer. Il est chez lui, de toutes les manières. Tu ne vas rien lui faire.
Lancer, c'est qu'il vous amène au point de frappe.
Voilà,
qui va. Un endroit sur la plage, pas trop proche de Ceuta, pour pas qu'il y ait trop de contrôle.
Non, mais ils avaient des coins très, très techniques. Puisque c'est sur leur territoire, tu vois. Ils connaissaient mieux le territoire que nous. Mmh. Il y a des coins où on passait même la nuit, on savait qu'ils nous voyaient, même s'ils ne faisaient pas signe ou quoi que ce soit, parce qu'ils savaient très bien, et ils le savent très bien, les Marocains, que les immigrés, ils passent par là. Donc, mais je pense quand même que ce pays, c'est un pays de... Ils ont un très grand cœur, quand même, parce que c'est un pays où, s'il fallait vraiment faire du mal, c'est que ils sont nombreux qui ne rentreront pas chez eux. Ils sont nombreux qui ne verront même pas le bout de la tête où ils vont, en fait, tu vois. Mais cette soirée-là, on a réussi à nous lancer. Il était dans les 5 heures du matin. On a réussi à nous lancer. On arrive... La Guardia Civil, qui est la police espagnole, nous prend sur l'eau. Je suppose, hein, parce que je ne suis pas très sûr. Mais vu comment le soleil brillait, je me suis dit qu'il devait être entre les 13 ou 14 heures. Parce que ça chauffait vraiment le crâne.
Et là, vous étiez combien dans le bateau ?
9. On était 9 et on nous a pris tous les 9 et c'est comme ça qu'on entre assez tard.
Mais quand vous êtes parti donc sur le bateau, vous êtes parti d'à côté de...
Oui, en fait, où on part, on prend le bateau, c'est à Nador, il y a Nador, les points. Nador, qui est
Nador, c'est une grande forêt.
Ouais, c'est une très grande forêt
qui est autour de Ceuta en fait, voilà. Du côté
non,
marocain.
Non, même pas de Ceuta.
Nador est plus loin, côté... ouais, non, tout à fait.
Ouais, Nador est plus du côté de Miliela. Et c'est, je me rappelle plus très bien, mais il y a un autre côté qui est plus du côté de Ceuta. En fait, quand tu es là, tu vois même la barrière, tu vois Ceuta, qui est tout est illuminé et tout ça. Mais je me rappelle plus comment ça s'appelle.
De Belyounech, tu veux dire ?
Hein ?
De la forêt de Belyounech, qui est de l'autre côté ?
Oui, Belyounech. Alors, nous, on était dans cette forêt. Moi, c'est, on va dire, moi, c'est arrivé sur un coup de tête. J'avais déjà payé. Alors, le mec, il nous a dit, et j'avais attendu pratiquement un truc comme, parce que j'ai fait un an quand même au Maroc. Je suis arrivé, j'ai fait, on va dire, 5 ou 6 mois de travail. Et puis, les 4 mois, il fallait trouver des petits travaux entre temps, en attendant, pour qu'on te permette de partir et tout. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir ce travail, certes, mais il fallait toujours être prêt. Et quand ils nous ont fait comprendre que c'était le moment, c'est soit un coup de tête, c'est pas un truc qu'ils ont prévu, c'est quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas trop de contrôle au niveau des gardes frontières, bon, pour nous lancer, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et ils nous ont demandé ce jour de venir à partir de 19h, mais ils nous ont lancé à 5h. Ah oui, c'est du côté, c'est très proche, parce qu'en fait, toi-même, quand tu es sur l'eau, il suffit juste de faire un tour. Il y en a qui rentraient même assez vite à la nage. Donc, mais juste parce qu'ils savaient nager, ils sont nombreux qui sont rentrés à la nage. Alors tu fais juste le tour du Maroc à Ceuta, parce que c'est la même terre. Et dès que tu rentres, c'est les Espagnols qui vous récupèrent. Et c'est comme ça s'est passé
là-bas. La Croix-Rouge, en l'occurrence.
Il y a la Croix-Rouge, il y a la Guardia Civil, il y a quelques associations, mais bon, que je ne connais pas trop. Il y a plus, mais ce jour, c'est la Guardia Civil qui nous a pris. Ouais. Mais je sais qu'il y a la Croix-Rouge aussi. Et puis après, ils nous ont amenés au commissariat. On a fait, je crois, 3 jours. Question de nous enregistrer. Et puis après, ils nous ont dit, bah, écoutez, le centre d'immigrés, c'est comme ça. Vous allez tout droit. De toutes les façons, vous suivez tous les blagues qui vont.
C'est pas très grand, c'est où t'as, on rappelle.
Donc ouais, c'est pas grand, c'est tout petit. Donc après, tu suis le black, hein, on voit rien que l'accoutrement que vous avez, on sait que non, mais ceux-là, ils viennent d'arriver. Donc voilà, on a suivi tout le trajet jusqu'au centre. Et puis arrivé au centre, on vous prend, on vous désinfecte et puis on vous sert à manger.
Donc le centre, c'est le CETI, c'est un centre temporaire pour les migrants. Ouais. L'idée, c'est de sélectionner en fait quels migrants... Dans ce centre, de les garder pour savoir quel migrant doit être renvoyé dans son pays, avec un pays avec un accord de réadmission, ou quel migrant va obtenir un laissez-passer pour aller jusqu'en Espagne et ensuite retourner dans un autre centre de détention en Espagne et être confronté à d'autres soucis administratifs.
Ouais. Voilà. Et je crois que donc, l'ambiance quand on est à Ceuta, alors pour me fâcher avec personne, je ne dirais pas que c'est l'Espagne, je ne dirais pas que c'est le Maroc, mais quand on est parce que Ceuta, c'est Ceuta. Quand on est à Ceuta, les choses ne sont pas très simples. Il y a une ambiance assez particulière à Ceuta. Ce n'est pas comme le reste de l'Andalousie.
Non, mais à la base, pour nous, Ceuta, c'était en Europe. On est arrivé en Europe. Mm-hmm. Seulement après, quand tu fais un mois, tu te rends très très vite compte que tu n'es pas en Europe. En fait, où tu es très surveillé, Tu as une certaine heure à laquelle tu dois manger, il y a une certaine heure à laquelle tu dois sortir, il y a une certaine heure à laquelle tu dois rentrer. Et en plus de ça, c'est pas très très ça, question bouffe. Donc après, ça changeait très très vite ton côté. Oui, je suis arrivé en Europe, je suis un homme libre et tout ça. Ça changeait très très vite ce côté-là. Et puis tu te rendais compte en fait que où tu y es, vu une certaine heure, on te sonne, il faut que tu penses à manger. Si tu ne manges pas, tu oublies, parce qu'il n'y a plus d'heure après pour manger. Et juste ça, ça te faisait comprendre, en fait, que et tout ce que tu as vécu, que ce soit dans les prisons marocaines, algériennes ou quoi que ce soit, c'est le même train-train, ça ne change pas. Donc c'est où tu te rends compte, en fait, que ce que tu es en train de vivre à Ceuta, en plus de ça, tu as une carte. Tu as une carte d'identité, c'est-à-dire une carte toute verte, on écrit Ceti, on écrit ton nom. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un problème qui se passe entre Black ou, je sais pas, entre Espagnol, et qu'on te trouve, toi, le Black qui est à l'intérieur, si tu n'as pas ta carte de Ceti, tu dois expliquer d'où tu viens, ce que tu fais dans ce désordre-là. Donc, ce qui fait que, pour nous, on se retrouvait pratiquement à la case départ. C'était tout beau, mais en même temps, on se retrouvait renfermé. Parce que Ceuta, normalement, quelqu'un qui est en bonne santé, en bonne forme, Ceuta, il le fait en 3 jours, en faisant juste le footing. Ouais. Non, mais c'est pas grand, en fait. C'est ce que je veux faire comprendre. Ceuta, c'est pas grand. Donc, du coup, quand tu tournes, et en plus, tu reviens pour manger la même bouffe, je pense que c'est comme un prisonnier qui est dans son truc de prison, il tourne, après on lui dit grille, on ouvre la grille pour qu'il a mangé.
Voilà, donc c'est où tu as 18 km2,
voilà,
d'un côté un immense mur, des barbelés, des caméras infrarouges infranchissables, et de l'autre, la Méditerranée, avec des courants qui font qu'aucun nageur peut passer. Donc on voit Gibraltar, on voit l'Espagne, la péninsule, l'Espagne continentale, mais il est impossible d'y aller. Et donc, même si le CETI, le centre en l'occurrence, est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des horaires où vous pouvez bouger dans la ville, tu tournes
juste
en rond.
C'est juste le tour.
C'est comme la balade dans une prison, finalement.
Oui, et aussi, il faut dire que ce qui nous a plus stressé, c'est que, oui, on comprend très bien que c'est un centre d'immigrés et tout, mais on se disait que c'était passager. Mais arrivé sur place, tu te rends compte qu'il y a des gars qui ont fait 5 ans là. C'est-à-dire la même ambiance pendant 5 ans. Ça, toi qui viens juste d'arriver et qui te dis oui, je suis arrivé en Europe, tu peux deviner pratiquement hystérique. Tu te demandes, mais attends, bon, moi je dis je suis arrivé en Europe. L'Europe, en fait, entre parenthèses, quand on dit que ça soit l'Espagne, la France ou quoi que ce soit, moi je pense quand on dit Europe, c'est la liberté en fait. Moi je pense comme ça. Pour nous, en fait, on pense comme ça. Et à cet instant, tu te rends très très vite compte que si tu peux faire 5 ans dans ces huttes, il n'y a pas de liberté, c'est-à-dire que tu te retrouves dans ce truc. Et même encore, la suite, c'est que tu pouvais faire 5 ans, mais 5 ans, c'est pas très très sûr qu'on va te libérer. Après avoir fait ces 5 ans, on peut juger de te renvoyer chez toi. Donc ça veut dire que tu as fait 5 ans de ta vie juste comme ça, quoi. Et puis c'était très stressant pour nous. Très stressant, ce qui fait que nous, on s'est donné des activités pour pouvoir vivre comme nous, on voulait, comme on le sentait, comme on a toujours l'habitude de vivre. Pas changer notre personne juste parce que voilà, on est arrivé, c'est pas ça, on a dit non. Et puis, moi, quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait déjà des trucs installés sur place. Mais à cet instant-là, quand j'ai vu comment les gars, ils se battaient pour aller laver les voitures, pour avoir ne serait-ce qu'un centime, pour. Et comment les filles elles se battaient aussi pour faire à manger pour pouvoir avoir un peu d'argent, pouvoir s'occuper d'elles-mêmes. Parce qu'après, quand tu arrives, on te donne un sac, brosse à dents, savon et shampoing. Juste ça, après, on ne te donnera plus rien. Tu es le seul, tu te débrouilles tout seul. Je me demande pour quelqu'un qui vit dans ce truc, qui n'a pas de revenus, comment est-ce qu'il vivra? Donc, ce n'était pas évident.
C'est une chose qu'on voit bien dans le film, d'ailleurs. C'est les gens qui travaillent, donc c'est la difficulté des gens qui nettoient les voitures, et c'est au tout début du film hein, où en fait ils nettoient les voitures avec le shampoing qu'on lui donne au CETI.
Quand on dit travailler, c'est donc des petits boulots, c'est vraiment des petits boulots comme garer les voitures, nettoyer les voitures.
Non mais c'est encore des shogos si tu veux, ce sont des shogos, c'est pour nous c'est toujours des shogos. Comme on est habitué à faire des shogos, du coup on a créé ce qu'on appelle pour nous shogos, c'est-à-dire on s'est créé des propres fonctions à nous, c'est-à-dire on va faire la bouffe entre nous. On va danser, manger, boire, comme on a l'habitude. Mais entre nous, question de changer un peu d'idée, parce que franchement, c'était stressant. C'était complètement stressant. Tu ne peux pas discuter avec un monsieur qui vit à Ceuta. Tu ne peux pas avoir de conversation, même pas avec un gamin, pour essayer de te changer. Il n'y a rien. La seule conversation que tu avais, c'était toujours avec quelqu'un que tu connais. Et bien avec quelqu'un avec qui tu as l'habitude, bien dans ta chambre, je ne sais pas, dans le city. Mais tu étais complètement bloqué. Tu n'avais pas d'issue. Tu ne peux pas te développer dans ce que tu es. Donc, parce que on a très vite compris que Ceuta, c'était pour nous une manipulation, parce que il se trouve même à un certain niveau quand on vous donnait des jus, et dans des jus, on voyait au fond du jus, quand tu finissais le jus, tu voyais juste des poudres blanches en fait. Alors, on comprenait très bien que même après avoir donné à manger, on nous donnait des trucs à l'intérieur. Donc, ce qui fait que à un moment, pour nous, c'était très, 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 c'était choquant parce qu'on a très vite compris que ce Utah, c'est pas vraiment un centre d'immigrés, c'est un centre de comment je vais dire ça, c'était un centre de, non mais pour moi c'était pas un centre d'immigrés en fait, c'était un centre qui
tu veux dire quoi, dans la façon dont ils vous traitaient,
ouais, surtout dans la façon dont ils nous traitaient,
qu'il y avait quelque chose d'un peu inhumain en fait,
voilà c'était pas ça.
C'est ce qu'on voit très bien aussi dans le film hein. c'est ce que tu nous dis là, c'est ce que le film montre, c'est que finalement Ceuta, 12 prisons, c'est une espèce de prison à ciel ouvert. De toute façon on ne peut pas continuer comme ça parce que les courants sont, enfin on est immédiatement mort si on entre dans la mer. Les bateaux qui vont, les ferries qui vont régulièrement vers l'Espagne hein, donc de l'autre côté vers Gibraltar, c'est extraordinairement surveillé. Et puis on va pas retourner vers le Maroc.
Tu peux pas. Dès que tu es entré à Ceuta, tu es entré, tu ressors plus. Si tu ressors, soit en rentrant dans ton pays ou bien tu es libéré. Et à défaut de ces deux-là, soit tu es expulsé. Ouais. Alors, ce que les gars ils faisaient, ils entraient, parfois ils se cachaient dans des bateaux pour pouvoir traverser l'eau dans le bateau, en fait sous les camions. Hein. Si jamais on n'arrivait pas à les retrouver, ils étaient chanceux. Donc, il se retrouvait de l'autre côté de la péninsule et là, il peut prendre son truc tranquillement pour continuer sa route, en fait. Mais ce n'était pas évident. Il y en avait qui mouraient, il y en avait qui... Même étant sur Utah, j'ai vu des morts.
Oui, non, mais c'est extrêmement dangereux. C'est les traversées qu'on connaît depuis Calais. Où,
Alors, c'est pour ça que nous, on se retrouvait comme on se retrouvait très souvent pour boire nos bières, changer des idées en mangeant et puis parler un peu de tout.
Et du coup, vous êtes créé, en fait, dans cet endroit, un espace qui est à vous, qui n'est pas très éloigné du CETI, du centre. C'est un espace dans la forêt que vous appelez le Ganda, le Tranquilo, où, en fait, vous êtes un peu, comment dire, réapproprié l'espace qui est du coup vraiment le vôtre. C'est un peu, comment on décrirait ça? Donc c'est un peu par communauté. Il y a un endroit pour les Nigérians, il y a un endroit pour les Camerounais. Voilà. Camerounais et Congolais travaillent ensemble, et là où vous faites à manger, vous buvez des bières, il y a des chants. Comment est-ce que tu raconterais ce que c'est que ce Ganda?
Alors le Ganda, si tu veux, je vais rentrer en arrière parce que à la base, quand tu es africain, quand tu es black, il y a une seule chose qui rend heureux, c'est la musique, en chantant. Et pour chanter, il faut les accompagnements, c'est-à-dire boire, manger. Ce qui fait que pour nous, c'était la meilleure façon. Alors que pour oublier et toujours avoir la persévérance, la foi de ce que tu cherches, il faut chanter. Et alors pour nous, on se mettait là, quand on avait déjà travaillé toute la journée, ceux qui étaient allés laver les voitures, ils avaient lavé les voitures. Ceux qui avaient leur business, comme moi par exemple, faisaient leur business.
On va en parler.
Hein. Ouais, mais bon, on faisait nos business. Et ceux qui avaient aussi, ceux qui faisaient parce qu'il y en avait qui travaillaient à Ciuta, hein, mais bon, travailler c'est trop dire. Qui faisaient des petits travaux vite fait avec des Indiens, parfois, parce que... Parfois, ils nous donnaient des coups de main. Tu pouvais venir dire, bon, tu vas vider telle poubelle, tu vas faire ci, tu vas faire ça pour te donner un 2 euros ou 3 euros. Et ceux qui faisaient dans les comme vous voyez dans le film, qui portaient les trucs dans les centres commerciaux et tout ça. Alors, pour nous, le meilleur moyen pour changer, oublier tout ça, c'était de se retrouver derrière une bière, un bon repas, fait à l'africaine, et puis discuter en chantant.
Voilà. Et d'ailleurs, dans le film, on voit quelqu'un qui pêche, qui passe beaucoup de temps à pêcher.
Non, mais pour nous, il faut dire que dans le film, pour la pêche, c'est on va dire que ce sont des trucs innés. Hein. C'est pas des trucs que ça soit au Gabon, au Cameroun, etc. La pêche, ce sont des trucs. Il y en a qui sont doués pour ça, qui ont grandi dans des zones, on va dire près de l'eau. Et puis pour eux, c'est rien. Ça se passe comme si c'était un réflexe de pêcher du poisson et puis.
Et c'est vrai que dans le film, donc, la musique et la chanson a une certaine place.
Ouais.
Donc, ce qu'on a, la chanson qu'on a entendue, hein, que j'ai mis et que j'ai accroché au jingle, je crois que c'est enregistré au Tranquilo.
C'est ça, c'est l'une des scènes dans le Tranquilo, après justement une orgie de poissons cuisinés à l'africaine avec des épices, auxquelles toute l'équipe technique du film a eu droit et ça nous a requinqué pour partir sur des journées difficiles de tournage après. Voilà, la pêche avait lieu le matin, on a mangé toute l'après-midi un poisson incroyable, et la soirée s'est finie au milieu de chants, en bassa, en bamileke, et en français de temps en temps.
Et donc, il y a quelqu'un dans ce film, un chanteur aussi, qui s'appelle Nour.
Voilà, Nour, il est somalien, donc il était moins dans une dynamique de groupe, parce qu'il était le seul somalien. Parce que, donc très basiquement, il y avait 1200, 1300 migrants à peu près quand on y était. Il y avait une forte communauté qui était camerounaise, gabonaise, centrafricaine. C'était vraiment un grand groupe qui partageait beaucoup de choses. Et il y avait quelques individus plus isolés. En l'occurrence, dans le film, on a un Indien qui est un personnage plus solitaire, ou Nour, qui est somalien, qui parle très bien anglais, mais pas français, qui était moins dans une dynamique de groupe, qui est un journaliste qui a fui la Somalie, Mogadiscio, en difficulté, et qui a écrit une belle chanson sur sa traversée à partir du Maroc vers Ceuta sur la mer.
Et voilà, donc je propose qu'on fasse une toute petite pause et qu'on écoute la chanson de Nour. Voilà, la chanson de Nour.
سومالان كسو بلاوي مركا مركي هو ري سفر كي سومالان كسو بلاوي مركا مددير مكي ها كسو وريغتي مددير مكي ها kaso waregate kee kaso bokole ani kee kaso bokole billa ila indu markay mugdi arkan muruga mujiya muruga mujiya muruga mujiya ha 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 la 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 maroka ni made marka nina hay guhu ha inna ha maro bada se bahar ka kubi me naftida an kubi me nafti an kubi me bil ida indu markay mugdi arkan muruga mujiya muruga mujiya muruga mujiya.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net à Ceuta ou à Mogadiscio ou au Havre ou n'importe où dans le monde, pourvu qu'on ait une connexion internet suffisamment rapide. Et nous continuons donc notre émission, un troisième épisode, j'espère qu'il y en aura un quatrième, sur, donc à propos de Ceuta 12 Prison, hein, du film, et de Guy qui est là, qui nous raconte donc son, qui nous racontait son voyage le mois dernier depuis, depuis Libreville à Ceuta, qui maintenant nous raconte la vie à Ceuta avec Jonathan. Et je veux dire que pour moi, c'est très agréable comme émission parce que je n'ai presque rien à faire. Je les laisse tous les deux discuter. En plus, ils sont tout à fait prêts. Il n'y a pas longtemps... On va en revenir. Donc là, on écoutait la chanson
voilà,
de
Noor. On écoutait la chanson de Noor, en Somalie, donc, qui en fait raconte toutes les difficultés morales de son parcours. La traversée des pays, la traversée de la mer, et qui s'est dit que son parcours de migration était assez difficile pour qu'il faille vraiment le raconter, notamment pour la jeunesse somalienne, pour qu'il sache à quoi s'attendre, parce que lui a été très touché par à quel point c'est difficile d'être migrant dans ces pays-là, à quel point il s'est senti à des moments rejeté, à quel point il a été face à des obstacles qui lui ont paru insurmontables, qu'il a persévéré, qu'il a réussi. Aujourd'hui, il a obtenu l'asile en Suède, et c'est vraiment une nouvelle incroyable. Mais il a voulu, à travers ses chansons, il en a écrit plusieurs, raconter tout son parcours et ses moments de désespoir pour les jeunes Somaliens qui voudraient faire la même chose.
Voilà, et donc s'il est en Suède maintenant, s'il passe par Paris, tu nous fais signe, j'aimerais bien qu'on le reçoive aussi ici...
En anglais, on serait prêt à faire une émission tout à fait en anglais.
En anglais,
ou en Somalie, cela dit. Si t'es...
Ou en Somalie, c'est un petit peu plus compliqué pour trouver un interprète. En anglais, c'est un petit peu moins compliqué. Mais bon, on peut trouver. Hein. Voilà. Donc, on était donc quand même à Ceuta. Donc, bon, à Ceuta, bien sûr, on ne fait pas que la fête. On fait la fête aussi. Ouais. Donc, Ceuta, c'est quand même, hein, on disait, c'est un petit peu compliqué parce que la population de Ceuta, c'est un petit peu spécial aussi. C'est pas...
Ouais, il y a 75 000 personnes qui vivent à Ceuta, ce qui n'est pas énorme comparé aux 1200, 1300 migrants. Et il faut dire que c'est une zone militaire et que sur les 75 000, il y a énormément de militaires ou de familles de militaires. C'est de là d'où est parti Franco. Il y a un musée du franquisme sur place. Il y a un rapport à l'armée très fort. C'est pas forcément la ville d'Amnesty International, quoi. Il y a un relent nationaliste qui est notamment dû à sa position géographique qui se ressent assez fort. Toi, Guy, tu racontes souvent la difficulté, en fait, à à avoir des interactions avec les habitants.
Ouais, c'était pas évident en fait, parce que il faut dire que moi, je sais pas comment je dois traiter ce genre de personne, parce que quand tu arrives et que tu es incapable.
Si tu peux parler un tout petit peu plus près du micro.
Si tu arrives et que tu peux pas. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un, c'est-à-dire quoi ? Quand tu arrives à la plage, tu vois, c'était en plein été, je me rappelle. C'était en plein été et parfois, quand on arrivait à la plage, ça faisait pratiquement comme...
Ouais, plein été, toi tu es arrivé en mai ouais, et tu as dû partir après l'été, en juin.
Ouais, donc après, j'ai pratiquement passé tout ce moment à faire... Comme c'était l'été, on passait tout le temps à faire des tours à la plage, se balader dans ce Utah et puis essayer d'avoir un peu d'argent pour pouvoir manger. Et voilà. C'est pas qu'il n'y avait pas mangé, il y avait à manger, mais franchement, la nourriture, ça ne servait à rien. Alors, ce que nous on faisait, c'était on se battait en l'avant des voitures, en poussant les chariots d'aliments de certains. Qui était franchement ça, c'est un métier que c'est un truc qui m'a pas intéressé de pousser en fait, parce que franchement ça donnait pas envie, vu comment les gens ils se prenaient avec ils te traitaient de tout, mais en espagnol, sachant que tu comprends pas, ils te traitaient de tout, ils te traitaient, et moi je comprends certes pas, mais si tu m'insultes, c'est clair que ça soit en latin ou en je sais pas moi, je comprendrais, parce que rien que le gestuel ça va dire beaucoup. Alors moi j'ai dit ce métier je ferais pas. Et je faisais comme tout le monde. Et alors, mais quand tu allais à la plage et que tu trouvais les gens, ils étaient en train de nager, ils faisaient pratiquement ce qu'on a fait, pratiquement un triangle pour les ouais, les stars sont arrivés, les célèbres, ils veulent nager, après on va reculer. Non, mais ça faisait très mal parce qu'en fait, nous, on pensait qu'on pouvait nager avec eux.
Mais personne ne s'approchait de vous, tout le monde s'éloignait quand vous arriviez.
Et je crois que même qu'il y avait un nom pour nous, en fait, là-bas. Mais j'ose pas revenir dessus. Et.
Ça ressemble à un entraîneur de foot.
Voilà, c'était pas facile. C'était pas facile. Rien qu'à vivre ça, c'était pas facile, hormis de ce qui se passait au CETI. Mais après, ce sont des moments qui faisaient partie de notre aventure. Parce que juste un mois, ça te permet de savoir où tu te trouves. Et c'était pas surprenant, en fait. C'était pas très surprenant parce qu'on a traversé ces moments-là. Que ça soit en Afrique, que ça soit dans le Maghreb, que ça soit dans l'Afrique noire ou dans le Maghreb. C'est pas tout le monde qui apprécie que tu te déplaces de chez toi, tu passes par chez lui, par sa porte pour devenir quelqu'un. Alors du coup, ça faisait... En fait, je pense que ça c'était un truc qui... Je pense que ça l'a marqué quand même. Parce qu'après, quand tu arrives à ce Utah, tu te rends compte que... Bon, peut-être quand j'y étais, ça n'existait pas, mais il y avait quand même le droit de l'homme. Mais que moi, je voyais pas. Mais après, quand tu vois ce qui se passe à ce Utah, et puis tu t'es dit un jour, ça finira... Mais que ça fait continuer, tu stresses. Et c'est ce stress qui nous poussait parfois à faire comme je disais, on se retrouvait entre nous, on buvait. Et puis... Mais j'ai eu la chance de faire que 3 mois. Parce que j'en connais qui ont fait 5 ans, même pas des mois, qui ont fait 5 années. Et j'en connais, moi j'ai eu la chance de faire que 3 mois. Et il faut dire que ces trois mois, on a un peu bousculé pour les avoir. on a bousculé parce qu'après 3 mois, il y en avait qui pétaient des câbles. Il y en avait qui tombaient malades. Qui, rien que le fait de sortir aller à la plage, qui ne peut pas discuter et tout, c'était un stress. Franchement, c'était un gros stress. On sortait tous les matins. C'était le même train-train. Moi, j'ai dit, je vais pas faire des choses juste parce que je vois quelqu'un faire, je vais faire pareil. Non, je fais parce que je pense que c'est normal de le faire. Mais sortir aller travailler comme on faisait, ce sont des travaux. C'est un travail que... Non. Moi, ça passe pas. Tu vas laver la voiture de quelqu'un, après, il te traite de tout. C'est un truc qui est chez moi, ça passe pas. Et puis, il y en avait qui supportaient, qui prenaient sur eux, hein, mais...
Et tu faisais quoi, toi, comme business, alors ?
Moi, ce que je faisais comme business, je perçais les oreilles, parce que c'était des stars. Pour eux, quand tu as traversé, tu arrives à ce Utah, tu arrives en Europe. Alors, il y en a qui ont oublié de percer l'oreille derrière. Alors, moi, je me propose. Alors, si tu veux percer ton oreille, c'est 4 euros. Et 4 euros, ça me faisait par jour, pour le nombre de d'immigrés qu'il y avait. Je vous laisse deviner. Mais c'était pas facile. Faut pas dire que c'est un truc que j'ai beaucoup. J'ai même pas réfléchi en fait. C'est pas arrivé comme ça. Moi, il faut dire que quand je suis arrivé, les un mois que j'ai fait, c'était une grosse galère parce que j'avais pas de quoi. Je mangeais au Comédor. Mais quand tu manges au Comédor et que tu vois.
C'est la cantine, le Comédor.
Ouais, c'est la cantine. Quand tu manges au Comédor et que tu te rends compte que c'est la même chose tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme tout le monde. Tu vas boire, tu te saoules, après tu rentres dedans. Mais moi, je stressais. Et puis, comme par hasard, j'ai mon pote qui était juste au-dessus de moi. Moi, j'avais 3 piercings, hein, donc les 2 oreilles.
Au-dessus. Hein? Ton pote qui était juste au-dessus de toi.
Juste au-dessus de moi.
Dans la chambre.
Dans la chambre.
Dans la chambre,
ouais,
okay,
dans la chambre, il était juste au-dessus de moi. Et...
Donc dans le lit, des
ouais, c'était super. C'était ouais,
vous étiez combien dans votre chambre?
On était 11. 10, normalement, c'est 10 par chambre. Mais on était 11. Parce qu'après, il y a un qui meurt et puis il y a l'autre qui réussit à avoir un laissez-passer. Et on se retrouve 8. Juste après, on me prend pour l'expulsion. Et puis voilà. Bon, je reviens, mais...
À tes piercings.
Et puis, comme il était dessus, il m'a dit, « Oh, mais si je savais, je perçais les oreilles comme toi. » Il m'a dit, « Si tu veux, j'étais en perce. » Et puis, c'était pas évident. Hein. C'était pas compliqué de percer l'oreille de quelqu'un. Moi, déjà, depuis le pays, on perce les oreilles avec les doigts. Donc, il y en a parfois, t'as pas besoin d'avoir les pistolets pour percer les oreilles. Non, juste avec les doigts. J'en ai déjà percé, hein. C'était pas une surprise pour moi de le faire. J'en avais déjà fait. Et je sais très bien ce qu'il y a à faire avant de le faire. Donc, et puis même, tu fais pas sur l'oreille d'un gamin. Tu le fais sur l'oreille d'un adulte. Donc, il sait ce qui est. Et puis voilà, je le faisais. Bon, avec lui, il s'est rendu compte, en fait, en sortant. Ouais, j'ai les boucles et tout, les gars. Mais t'as fait comment pour voir? Il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Et moi, quand je sortais, j'avais 3. Et j'étais pratiquement, je vais dire, le seul qui avait 3 des oreilles percées. Alors qui venait maintenant me proposer, bah, si tu me fais, oui, je te donne. Et puis parfois, je faisais, même parfois pour rien. Hein. C'était pas toujours le jour où il faut qu'il me donne des thunes. Non. C'était pas forcément ça. Je le faisais parce que je savais que ça leur apportait un plaisir de se sentir beau.
Pour se préparer.
Voilà, pour se préparer à continuer, à arriver en. Bon, parce que c'était déjà ça l'Europe pour nous. De se sentir comme. En fait, ceux qui veulent se sentir comme ils sont. Et puis moi, ça me permettait pour moi de me réjouir aussi en ayant un peu de sous pour pouvoir manger normalement comme je veux. Et voilà quoi.
Voilà. Donc ça, et un petit mot peut-être aussi sur l'ambiance de la chambre, parce que donc apparemment, il y a quand même un certain aller-retour dans la chambre.
Non, mais notre chambre, c'était une chambre de. Je vais dire que dans ma chambre, j'étais dans mon coin en fait, parce que c'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui est divisé en deux. Il y a la C, il y a la D. Moi, j'étais du côté de la D. Alors, on va dire que tout le long de la D, j'étais très connu. J'étais connu parce que déjà, je ne sortais pas trop. Je passais plus le temps à lire et à faire mes piercings sur place. Et quand je sortais, c'était pour aller manger en Ganda et revenir.
Tu lisais « Éloge des frontières » dans
ouais,
le livre de
vrai. Il n'y a pas qu'éloge, je lisais plein de trucs. Et quand je revenais, c'était pour faire comme tout le monde. Après, il y avait le net qu'on pouvait payer 1 €. Mm-hmm. Et puis, il fallait avoir un peu d'argent pour payer tout ça. Donc, il fallait que moi, je me concentre à chercher ce que... Et ce n'était pas tous les jours que je trouvais les gars qui voulaient se percer les oreilles. Bon, après, tu pèses 1, 2, 3, voire 20. Après, il faut que tu économises pour pouvoir te gérer. Et puis, tu stresses parce que tu es sur place. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne sais pas ce qui se passera. Tu ne sais même pas ton avenir. En fait, tu es juste là comme... Comme une pomme de France qu'on a déposée là, juste comme ça. Donc c'était stressant en fait.
Ouais, c'est une attente.
Et dans ma chambre, vu que j'étais connu, alors que ce soit sénégalais, malien ou ivoirien ou quoi que ce soit, quand on se retrouvait, c'était la même ambiance, puisqu'on est africain, hein, c'était la même ambiance, on discutait. Il y en avait qui te parlaient leur pays, il y en avait qui te parlaient leur pays, et puis on jouait aux damiers, et je ne sais pas comment ça s'appelle ici.
Aux dames,
voilà, on jouait aux dames et on jouait à plein de trucs, aux cartes, voilà, ça nous permettait de s'évader un peu, mais c'était pas toujours ça. Tout ce qu'on faisait, l'oreille était tendue vers l'administration du CETI.
Le stress était toujours présent,
voilà,
en fait.
Donc,
ça se ressent énormément. Nous, quand on est arrivé, on arrivait à distinguer quelqu'un qui était là depuis plus de 6 mois, vu à quel point... Cette latence obligée, cette angoisse,
ouais.
se retrouvait presque physiquement sur la personne et à quel point ça touchait immédiatement les gens qui y étaient et ceux qui étaient là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je pense à ce groupe de Congolais qui était là depuis plus de 4 ans. Voilà. Ça se voyait vraiment, ils étaient physiquement ravagés par cette attente terrible et cette idée que chaque jour, ils ne savent pas ce qui va se passer pour eux à la fin de la journée.
Il faut dire que même ceux qui ouvraient des Nganda, comme je dis, il y avait un Nganda camerounais, il y avait l'Nganda centrafricain, il y avait malien et il y avait nigérien. En fait, ceux qui ouvrent ce truc, ce sont des gars qui ont fait pratiquement 2 ans souplesse. Mmh. Et un moyen pour eux de se faire un peu d'argent, c'était d'ouvrir un mini, parce que c'était des trucs faits en bois et en feuilles même, on va dire. Parce que bois, on faisait avec du bois. On mettait juste du sachet nylon pour éviter par rapport à la pluie. Et puis on recouvrait complètement le tour des tissus juste en bas parce que quand la pluie elle va tomber, elle va couler. Après, on retapait la terre pour faire fuir de l'eau quand c'est jamais si l'eau qui est en haut, pour faire fuir au niveau, pour que ça rentre pas à l'intérieur en fait. Ouais, et puis on faisait des petites tables juste pour.
Du matériel de récupération, voilà. Comme il y avait des canapés, il y avait des
stéréos. Voilà, il y avait des canapés, on portait tout, on ramenait sur place. Et puis c'était notre petit coin, notre petite bibliothèque, si vous voulez. C'était notre petite bibliothèque tranquille. Et puis ça se passait, c'était très très dur. Franchement, c'est un truc à rappeler, c'était énormément dur, c'était pas... Maintenant, je parle, je ris, mais c'était des moments où tu pouvais voir mon sourire, il fallait vraiment, vraiment me dire quelque chose qui... Je sais pas, mais bon.
Surtout, vous avez tous vu passer un matin à 6h du matin, quelqu'un enchaîné avec des menottes qui se faisait emmener en cellule. Il y avait aussi cette idée que voilà. C'est lui aujourd'hui, c'est peut-être moi demain.
C'est pour ça que j'explique quand tu sais pas ce qui va t'arriver, c'est-à-dire un beau jour, le lendemain matin, tu peux dormir croyant que non, demain, c'est comme tous les jours. Et puis à 6h du matin, la guardia civile elle arrive et vous demande Amigo, Dami, Takita, dont tu donnes,
ta carte
comme quoi tu vis à Ceuta et tout. Et puis ils te mettent des minutes comme si tu avais volé un truc et puis ils te ramènent à la voiture et c'était le départ. Il y en a qui sont quittés comme ça, ils rentraient plutôt chez eux. Qui ont fait. Parce que nous, quand on est arrivé, vu comment on est arrivé, parce qu'il faut dire, c'était l'année, je vais dire que moi, pendant le temps que j'étais, c'était une année de ouf, quoi. Les gars, ils entraient, c'était en masse. Et puis les anciens, eux, ils rentraient. La plupart, il y en a qui ont donné des libérations, mais il y en avait qui, c'était plus, ils rentraient chez eux, on les rapatriait. Après avoir fait 3-4 ans sur place, on les rapatriait.
Il y avait des coups de fil, d'ailleurs. Il y avait des gens de Ceuta qui recevaient des coups de fil de leur ancien compagnon de chambre 3 jours après, qui leur disait tiens, je suis en Guinée, rentré chez moi.
C'était des moments durs. Mais moi, je vais dire encore, j'étais pas le seul, mais parce qu'il y a eu une émeute à Ceuta. Hein. Il y a eu un truc qui s'est vraiment. Parce qu'à un moment, ça a étouffé. Ça a étouffé parce qu'on ne supportait plus, cette façon de vivre. Et puis, à un moment, ça s'est étouffé. On ne gérait même plus. On ne gérait plus parce que on ne gérait plus le. Il y avait qu'un seul gardien, je sais pas, gardien avec qui on s'entendait, c'était Mohamed. Le reste était pour nous que des gros poignards en fait. Pour nous, c'est comme s'il marchait avec des poignards à la main. L'occasion de se permettre de te tuer, il te tuera.
Ils étaient durs avec vous.
Voilà, c'est ce que je veux faire au monde. Et ce moment, une fois, on était en train de toujours au Ganda, et puis il y a eu un petit problème qui s'est passé au Séti, un jeune qui s'est fait battre par. Bon, nous, on n'a pas vu, donc je ne peux pas dire ce qui s'est vraiment passé, mais arrivé sur place, ça avait fait bouillonner pratiquement toutes les sauces africaines. Il faut dire que tous les blacks étaient debout. C'était plus le problème d'une seule personne, c'était le problème de tout le monde. Et puis, les gars, ils étaient affolés. C'était où vous nous libérez, où vous nous renvoyez, nous tous chez nous. Donc, et les camions, vu que le CETI, il est juste en dessous du camp militaire. C'était très facile que les camions, parce que les camions, ils avaient fait pratiquement tout le tour. Et c'est là qu'on a commencé à libérer certains au fur et à mesure.
Pour s'en débarrasser.
Pour s'en débarrasser.
Quand on dit libérer, en fait, c'est donner un laissez-passer.
Non, mais c'est l'expulsion même. C'est pas.
C'est l'expulsion. L'expulsion, c'est-à-dire le retour vers le sud ou l'expulsion du centre et on va vers le nord.
Non, mais on vous envoie d'abord en centre de détention.
Ouais. En Espagne, péninsulaire.
En Espagne, ouais.
Et puis Tarifa, ou des villes en Espagne, il y a des centres.
Et après de là, on vous prend. Vous avez normalement 60
jours pour 60, être reconnu.
Pour être reconnu par un ambassadeur. Mais après, si l'ambassadeur ne passe pas, on vous libère.
Et okay. Par contre, s'il passe, il y a un accord de réadmission avec un certain nombre de pays. Par exemple, le Nigeria, par exemple, le Cameroun, par exemple, la Guinée. Mmh. Et donc, si l'ambassadeur te reconnaît en tant que Camerounais, en tant que Nigérian, tu peux être. Enfin, t'es expulsé immédiatement.
D'ailleurs, ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait d'émission sur les accords de réadmission. On en avait fait quelques-unes, surtout dans l'émission RESF, hein, du mercredi après-midi. Mais c'est... pour l'Espagne, je ne sais pas, mais en France, les consulats peuvent être payés pour leur laissez-passer. Donc on a des pays, en fait, qui délivrent des laissez-passer pour des gens qui ne sont absolument pas leurs ressortissants, mais qu'ils veulent bien reconnaître comme étant.
Il se pourrait bien que ce soit le cas également en Espagne.
Voilà. Alors, avant de parler, je crois qu'on n'aura pas le temps d'ailleurs, hein, ça fera ce quatrième épisode, hein, la façon dont tu as quitté ce tas.
On prend racine ici.
Pour aller en Espagne et finalement pour te retrouver dans les studios de FPP. Il y a quand même l'aventure du film. Là, on n'a plus beaucoup de temps, mais ce film, donc j'ai l'impression, enfin, tant que moi, en tant que spectateur, qu'il y a l'aventure du film quand on tourne le film. Ça doit être une aventure et pour vous et pour les gens qui ont été dans le film, enfin, qui ont. Ensuite ce film devient une aventure qui fonctionne toute seule.
Ce qui est tout le but, c'est vrai que ce film, on l'a tourné il y a maintenant un an et demi, en fait, donc l'été dont on parle, l'été 2011. On a mis à peu près un an à le faire, après le tournage, de montage, de traduction. Il y a énormément de langues dans le film, on a filmé énormément, donc on a mis beaucoup de temps à en faire une structure. Et il a été fini, en fait, en septembre 2012. 2 mois après, on avait la première du film, qui était au Festival Amnesty à Paris, donc début novembre. Et depuis, on a cette bonne nouvelle qui est que le film vit. Alors un film qui vit, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour l'instant, on n'a pas encore une vraie sortie salle, et voilà, mais qu'on a des gens qui nous appellent, qui le diffusent, il est pris dans des festivals, et nous, on essaie de l'accompagner à chaque fois, soit en tant que réalisateur ou Guy qui vient également. Il y a des gens d'Amnesty, des gens de Migrants Europe, des gens de l'UNCHR, plein de gens qui viennent pour faire des débats autour du film et de ses thématiques. Parce que dans le fond, les thématiques du film, c'est qu'est-ce qu'une personne déracinée, pourquoi quitte-t-on son pays, qu'est-ce que les murs de l'Europe, qu'est-ce que l'externalisation des frontières, qu'est-ce que les centres de détention ou de détention temporaire. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que se retrouver sans papier en France, ce qui arrive à certains de nos personnages. Donc on a vraiment cette idée d'un film qui fait réfléchir et amène le débat. Tout le principe du film, c'est que le spectateur a aussi peu d'informations que les personnages que nous suivons. Et c'est vraiment ça le plus terrible, c'est qu'on se rend compte qu'après coup, oui, théoriquement, on en parle, tiens, telle personne pourrait demander l'asile, telle personne pourrait faire ça, mais sur le moment, dans l'aventure, le migrant est à défaut, dans un manque total d'informations. Et on a voulu plonger, en fait, le spectateur en immersion, en plongée avec le regard de ces migrants, en se disant, tiens, on ne sait pas quoi faire, on attend, on progresse doucement sur ces routes de migration, et c'est pour ça qu'on organise, dès qu'on peut, des débats après.
Voilà, et puis il a été primé, je crois.
Il a eu 2 prix, tout à fait. On a eu un prix du public au Festival de Rouen et un prix du jury, un festival au Mans.
Voilà, et donc ce film, le film lui-même est passionnant et les projections sont passionnantes parce qu'il y a des débats, parce qu'on en discute, parce que le film soulève des problèmes dont on ne se rend pas forcément compte la première fois qu'on le voit, quand tu parles, donc si tu veux, et puis c'est quand même un film qui tord le cou, qui a un certain nombre de représentations, en sachant que et c'est ce qu'on fait ici d'ailleurs. En fait, ceux qui viennent ici, ils savent très bien pourquoi ils viennent, ils sont parfaitement organisés, ils connaissent le droit social européen de chacun des États sur le bout des doigts pour pouvoir mieux en profiter, etc. Bon, tout ça, c'est complètement con, c'est complètement faux.
Évidemment.
Et on voit que les gens qui arrivent savent un certain nombre de choses, mais finalement assez peu. Et puis du côté pratique.
C'est tout à fait ça. Et il y avait aussi cette idée que les migrants ne sont pas que des statistiques et des chiffres, qu'on voulait en finir avec cette idée, et d'aller justement s'approcher, proposer un vrai regard sur, chez nous, 5 personnages, avec cette idée que dans le fond, on est assez proches, qu'on se ressemble, qu'on a des goûts musicaux en commun et, et qu'il faut arrêter de considérer le migrant comme une entité qu'on calcule par chiffres, mais comme des personnes avec des prénoms. Mmh. Et qu'on avait ça à dire dans le film également.
Et donc moi j'aimerais bien, là, puisqu'il nous reste un petit peu moins de 5 minutes, peut-être qu'on conclue sur les... Enfin, qu'on conclue pour cette... pour cet épisode, hein, puisque au mois de mars, ça, on ne pourra pas se retrouver au mois de mars parce qu'on a déjà une date qui est prévue, mais pour parler de Anis Grah et des jeunes filles russes, enfin, qui sera une exposition qui va se dérouler là-bas, mais donc peut-être au mois d'avril.
C'est parti.
Et donc pour toi, Guy, donc tu participes à ce film à Ceuta. Mmh. Et tu te retrouves, tu arrives à Paris, tu te retrouves comme ça, donc dans les salles de cinéma, à animer des débats, et c'est quand même intéressant.
Oui, complètement même. C'est tu quittes du noir au blanc. Ouais, c'est captivant, c'est très captivant parce que c'est des trucs. C'est pas un truc que j'avais prévu. C'est des trucs qui arrivent comme ça, tout naturellement. Et c'est comme la rencontre que j'ai eue avec Jonathan, le parcours qu'on a fait, le contact qu'on a gardé jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Mais bon, il faut dire quand même que le film, ça restera pour moi comme l'un des plus grands de mes souvenirs. Mm-hmm. Parce que ça raconte ma vie, en fait. C'est pas un truc, c'est pas une fiction, c'est pas tout ce qu'on voit, c'est ce qui s'y passe, c'est qui est. Et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, même si j'en parle. Je le parle pour pouvoir faire comprendre à certaines personnes que parfois les idées ne sont pas toujours ce que les gens peuvent avoir dans leur tête. C'est pas surtout pour vanter. Moi, je suis rien. Hein. Mais après, c'est ce que les gens y pensent, c'est ce que les gens y ont dans leur cœur. Alors, c'est dans ce film, je pense que ce film l'apporte beaucoup, c'est dans ce sens-là. C'est pour que les gens ils ouvrent les yeux sur ce qu'ils ne voyaient pas, parce que quelque part, c'est un peu flou.
Ouais. On a eu d'ailleurs dans cette idée une projection très très bien au Festival international du film Droits de l'Homme, avec un atelier de réalisation où c'était des jeunes adolescents qui avaient entre 10 et 13 ans, mettons, et qui sont venus après le film nous poser des questions, des questions, et leur retour était vraiment très...
Ouais, ils étaient, comment je vais dire, ils étaient stupéfaits, mais quand ils m'ont vu, c'est comme s'ils me connaissaient il y a longtemps. Ils ont crié « Guy, Guy, Guy », mais bon. Après, quand je leur expliquais ce que c'est dangereux, c'est pas bien, et tout ça, les enfants, ils ont vraiment aimé, pas ma personne, mais surtout l'histoire que je racontais, parce que je pense que cette histoire, ça va les apprendre, et pour plus tard, c'est pas pour maintenant. C'est pour plus tard que ça soit avec les enfants et aussi avec les gens qui regardent les choses, mais de loin.
Ok. Donc,
voilà, et donc, bah, peut-être pour conclure là-dessus, il y a pas mal de nouvelles projections, notamment en mars, du film. On est le 18 mars au cinéma La Clé à Paris, à 20h. Et sinon, avant, on est le 15 mars à Poitiers, le 16 mars à Tulle et le 22 mars à Vannes. Et on retrouve toutes ces dates toujours sur ceuta12prisonlefilm.com. Voilà.
Et si on veut organiser une projection, eh bien, je suppose qu'il y a un contact.
C'est ça, tout à fait.
Voilà,
soit moi, soit Zaradoc, qui est la société de production. Voilà. Et voilà, il y a des contacts sur le site.
Ok. Donc, si vous voulez faire une projection du film, hein, vous allez sur le site de Zaradoc ou sur ceuta12prison.com, le film. C'est ça, c'est
le film avant.com.
Le film, oui, c'est la 12 prison, le film.com. Ou sinon, vous pouvez écrire à singulier au pluriel, .fpp@gmail.com et je transmettrai. Voilà, donc on se dit à dans 2 semaines. Merci beaucoup.
Ou dans 2 mois.
Hein, ou dans 2 semaines. Oui,
on a tellement envie de s'en voir que.
Dans 2 mois pour singulier au pluriel. Et donc, moi, je vous dis à demain pour RESF. Et on va se quitter. Donc, maintenant, il est temps de retrouver Au fond près du radiateur.
Bye bye.
On va se quitter sur Souris-moi, hein, de Salignolo.
Ouais, du bled.
Parfait. Tell you.
Yako kwa kao, oh, 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 oh,